Au sommaire de ce grand journal, le 23 juillet, journée de manifestation pour l'opposition. Et pour éviter tout débordement, le ministre de l'Intérieur prend des mesures avec interdiction de rassemblement devant les institutions et édifices publics. Benon Siguil, Sénégal, en réunion à l'instant, promet de se prononcer sur la question et nous vous donnerons également la parole aux alentours de 12h30. La carte nationale d'identité est difficile à obtenir. Dans bon nombre de localités du pays, les citoyens sont intrigués par cette situation. À la SICAP, Mbao et Diamagon, la police fait état de faible effectif face à une forte demande. Dans la région de Matam, les populations peinent également pour trouver une pièce d'identité. Les élus locaux interpellent le ministère de l'Intérieur à quelques jours de la fin de la révision exceptionnelle sur les listes électorales. Renchérissement du prix de la viande sur le marché, une importante hausse a été notée ces derniers temps. Les professionnels du secteur expliquent cette situation par des blocages relatifs à l'acheminement du bétail vers Dakar. L'actualité internationale, Guinée-Conakry, les arrestations se poursuivent après l'attaque contre le domicile du président Alpha Condé. En sport, lutte Tafatine Elton, les deux écuries, Baol Mbolo et l'école de lutte Balagaï, se défient à 48 heures de cette grande affiche. Dans ce grand journal, parler français et météo. Naturellement, vous aurez la parole aux alentours de 12h30. Bienvenue à toutes et à tous. Mesdames, Messieurs, bonjour. Décision des autorités gouvernementales. Toute manifestation ou rassemblement devant certaines institutions et édifices publics est interdite. Et interdit donc, le préfet de Dakar, qui revient sur cette restriction, précise le secteur où l'opposition peut manifester. Ibrahim Assa, rejoint par Daoud Diouf.
Il a été noté lors des dernières manifestations que certains immeubles abritant les institutions ont fait l'objet soit d'attaques ou bien de saccages de la part de personnes incontrôlées. Et ces institutions-là incarnent un petit peu nos systèmes démographiques et démocratiques. C'est la raison pour laquelle monsieur le ministre de l'Intérieur a bien voulu sauvegarder donc ces institutions en prenant une mesure de sûreté. Et à partir de ce moment, on ne pourra plus donc manifester devant l'Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil économique et social, les cours de tribunaux, le palais de la République, le building administratif et la place de l'indépendance.
Et si les membres du M23 sont d'itinéraire, ils pourraient être autorisés?
Cette mesure ne s'applique que sur un espace bien précis, l'espace compris entre l'avenue El Hadj Malissé et le Cap Manuel. En dehors donc de ces espaces-là, il est tout à fait possible aux citoyens de continuer à manifester.
Le meeting des libéraux a-t-il été autorisé?
Ils peuvent organiser parce qu'ils sont en dehors de cet espace. Ceux qui veulent manifester donc choisissant un site qui est hors donc, de l'espace prescrit par la République du ministre de l'Intérieur peuvent continuer effectivement à manifester. Il en est par exemple la place de l'Obélisque. C'est un site qui est bien prisé par les populations et à chaque fois, il y a des manifestations qui s'y déroulent sans difficulté.
Benon Siguil, Sénégal, se réunit à l'instant et va se prononcer sur cette décision du ministère de l'Intérieur. Le pouvoir a-t-il peur que le pays subisse une nouvelle fois de violentes manifestations comme ce fut le cas le 23 juin dernier? En tous les cas, il y a des réactions mitigées des citoyens que nous avons interrogés. Certains approuvent parce que préoccupés par la stabilité dans le pays, d'autres pensent que les autorités doivent respecter les principes démocratiques. Le reportage de Charlotte Lalanne.
Dans les bruyantes rues du plateau, chacun y va de son commentaire sur l'arrêté du ministère de l'Intérieur tombé hier. Madame Diaye, dossier en main, redoute un deuxième 23 juin. Alors pour elle, cette décision est légitime.
Qui est arrivé au 23 juin, on a vu. Il y a la violence partout, des cas. Bon, on ne veut pas que ça se reproduise. Si c'est le Sénégal, on veut la paix. On ne les a pas interdits de marcher. On les a dit de marcher sur les places qui sont autorisées. C'est normal que le ministre de l'Intérieur prévoie la sécurité.
Quelques mètres plus loin, sur le boulevard de la République, Saliou fustige cet arrêté.
C'est de l'injustice. Le 23 juin, c'était quoi? S'il n'y avait pas les gars du pouvoir qui étaient venus pour dire que bon, nous aussi, on est là, mais ils n'allaient pas avoir de problème. Je crois que le peuple est assez mature. Hein.
Ibrahima, lui, va plus loin. Interdire les manifestations, encore un faux problème, selon ce technicien en génie civil.
Le problème, c'est pas d'interdire les manifestations. On ne peut pas avoir des gendarmes sur chaque coin. On ne dirige pas un pays comme ça. On dirige un pays en faisant la satisfaction de ses populations, c'est ça. Mais pas tout simplement venir mettre des gendarmes, c'est pas ça. Ça, c'est un régime policier. Il n'y a pas à interdire tel endroit, que ce soit au niveau de le Dakar Plateau ou bien des immeubles administratifs ou pas. Le Sénégal, c'est le Sénégal. Le territoire est commun pour tout le monde.
En tout cas, l'opposition est prévenue. Tout manquement aux interdictions prévues par l'arrêté sera puni.
Marche de l'opposition, donc, le 23 juillet prochain. Samedi donc, affaire découpage administratif à Sangalkam, l'avocat du président du conseil rural, maître Ibrahim Mamboye, soutient qu'aucun rejet d'annulation de la requête introduite par les plaignants n'a été rendu par la Cour suprême. L'avocat parle d'une requête portant la réinstallation des membres du conseil rural adressée au premier président de la Cour suprême. Écoutons maître Ibrahim Mamboye avec Daoud Diouf.
La Cour suprême n'a jamais rejeté la requête pour annulation du découpage administratif de la communauté rurale de Sangalkam. Aucune décision à ce jour n'a été rendue par la Cour suprême concernant donc l'annulation du découpage administratif. J'ai saisi le premier président de la Cour suprême, puisque le premier président de la Cour suprême, en vertu des dispositions de l'article 78 de la loi organique sous la Cour suprême, dispose de pouvoirs propres. C'est sur la base donc de ces pouvoirs propres que j'ai demandé au premier président, à monsieur le premier président de la Cour suprême, de réinstaller Oumergué et tous les autres conseillers municipaux, les conseillers ruraux à leur poste respectif. Je me suis fondé sur deux choses pour demander donc à monsieur le premier président de réinstaller Oumergué et autres à leur poste.
Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles.
RFM, la radio de toute l'actualité.
12h07, comment faire pour obtenir une carte nationale d'identité? C'est certainement la question que beaucoup d'habitants des Sikap Mbao et Diamagun se posent. Dieu sait qu'ils ont toutes les peines du monde pour avoir la CNI sur place. La police explique cette situation par la forte demande face à ses faibles effectifs. Salif Sow.
Aliou Ba quitte le poste de police de Sikap Mbao et Diamagun. Il hâte le pas dans sa main gauche sa carte d'électeur. En ce qui concerne sa carte d'identité nationale, il court derrière depuis plus de 4 ans. Fait-il savoir?
Je suis directement rendu là où ils m'ont demandé d'aller retirer la carte d'identité. Ils m'ont donné ma carte d'électeur et je n'ai pas ma carte d'identité. J'ai déposé depuis 2005.
Une autre citoyenne, un même problème. Notre interlocutrice s'est vue rejetée à plusieurs reprises par la police. Elle dit ne plus rien comprendre.
On a rejeté. Ils n'ont pas accepté.
Qu'est-ce qu'ils ont dit? Pourquoi?
Parce qu'ils ont dit que le numéro appartenait à une autre personne. Non, je n'ai pas de jugement.
Tu n'as jamais fait de jugement?
Non, non.
À l'intérieur de la police, quelques citoyens munis de leur récépissé viennent retirer leur carte d'identité nationale. Des dizaines de pièces s'ouvrent encore dans des caisses en carton. Interpellé sur la question, le commandant avance que le responsable du bureau des cartes d'identité traite par jour en moyenne 150 demandes. Rares sont les citoyens qui repartent des logos de la police avec leur carte d'identité nationale. Salif Sow, Diamagun, Radio Futur Média.
À Matam, trouver une carte nationale d'identité relève presque d'un miracle. Dans les communautés rurales de Bokiladié et Aouré, mais aussi dans les communes de Sémé, Dembankané et Waoundé, il n'y a aucun centre de dépôt. L'unique centre de dépôt qui se trouve à Orkédiéré ne peut pas répondre à la forte demande. C'est pourquoi les élus locaux de la zone interpellent le ministre de l'Intérieur, Ali Bandelnian.
Des milliers de Sénégalais qui risquent de rater le rendez-vous électoral de février 2012. Depuis le début de révision des listes électorales, les populations des communautés rurales de Bokiladié et de Aouré, des communes de Dembankani et de Waoundé peinent à accéder aux commissions d'établissement de la carte nationale d'identité numérisée, indispensable pour l'inscription sur la liste électorale. À quelques jours de la fin de l'opération, les élus locaux de ces collectivités locales haussent le ton pour interpeller le ministre de l'Intérieur. Alassane Thiam, le président de la communauté rurale de Bokiladié.
Faire venir des jeunes, des vieux, des villages reculés jusqu'au goudron pour prendre la voiture, les charrettes qui traversent des petits vallées, des abrutes, avec des secousses, souvent c'est des femmes, voire même enceintes, en pensant qu'ils vont laisser leur santé, ben, ça les décourage. Prendre son ticket jusqu'à Orkédiéré, passer une journée, voire une nuit, sans manger, sans boire, ça décourage. encourage les populations. Le ministre de l'Intérieur, comme c'est des citoyens à part entière, c'est de mobiliser la commission de l'inscription dans les lieux. C'est tout ce qu'on demande. Nous, on apportera notre soutien pour que les gens puissent venir établir leur demande de carte nationale d'identité et s'inscrire sur les listes électorales. C'est ce qu'on demande.
Dans cet unique centre de Orkadjéré, des milliers de Sénégalais inscrits attendent toujours leur nouvelle carte d'identité numérisée déposée depuis 2010. Ce qui justifie, selon les leaders politiques de l'opposition en particulier, la volonté manifeste du pouvoir de priver de paisibles citoyens d'un droit civique. Matam, Ali Bandelnia, RFM.
RFM, la radio de toute l'actualité.
Antoine Djouf.
Consommer de la viande, cela risque d'être possible que pour les couches privilégiées avec cette importante hausse du prix du produit. Et les bouchers ne se sentent nullement responsables de cette situation. Tout est lié à des problèmes d'acheminement du bétail vers Dakar. Le mauvais état des routes de l'intérieur du pays avec l'hivernage y est pour quelque chose, explique-t-on. Et les consommateurs qui disent n'avoir pas trop de solutions vont faire avec. Un tour au marché, Mantouré.
Chabouya. Yassayap, Chouyap, Touffé, entendez, riz à la viande, avec plusieurs formules, tellement de plats bien de chez nous, mais qui souffrent. Pourquoi ? La hausse des prix est passée par là, cette dame nous indique le coût. Le kilo de viande de mouton s'échange à 3000 francs, avant c'était à 2500 francs. Pour le bœuf, il faut débourser 2400 francs, avant il fallait avoir juste 2000 francs. À qui la faute ? Sûrement pas nous, les vendeurs, rétorque Omar Sy. Joufflu, potelé, en parlant, il touche la viande de mouton avec amour. Un regard attendrissant sur son produit. Il donne l'impression d'adorer la viande au feu de bois.
Non, ce n'est pas de notre faute s'il y a hausse. C'est juste que c'est à cause de l'hivernage. Les camions qui transportent les moutons et les bœufs sont bloqués dans les zones les plus reculées. En plus, il n'y a pas de bonne route là-bas. Juste des chantiers ouverts et avec la pluie, c'est des routes qui sont souvent impraticables. Les camions sont donc obligés d'attendre que ces voies soient séchées par le soleil pour regagner la capitale. En plus, il n'y a pas de station d'essence. C'est bien dommage.
Solution, le poisson peut-être. Pour acheter du poisson, il faut d'abord le voir et c'est impossible. Le poisson coûte plus cher. Oui, pour le poisson séché, c'est une option aussi, mais impossible de préparer toujours les mêmes plats. Ce n'est pas à cause de l'hivernage qu'il y a hausse. C'était bien avant. Certains finalement font du trompe-l'œil. Ils achètent peu de viande, mettent beaucoup d'oignons, des frites, du pain et des boyaux. L'essentiel, c'est de se remplir le ventre.
Nous parlons maintenant de l'examen du BFM. Les candidats à cet examen ne sont pas les seuls à supporter la pression ou à subir la pression de l'examen. Il y a aussi les présidents de jury et les correcteurs qui vivent le stress. Le volume de travail supporté jusqu'à la délibération les empêche de dormir du sommeil du jus. Reportage à Wambaï.
Téléphone portable collé à l'oreille, Rakiba s'occupe de quelques petits problèmes qui ne manquent pas dans le déroulement du BFM.
Vous voyez, je suis en train de préparer les épreuves. Mon secrétariat, je ne vois personne.
Elle est la présidente du jury A du centre Blaise Diagne. Âgée d'une cinquantaine d'années, la fatigue et le stress se lisent sur son visage. Elle manque de sommeil et il en sera ainsi jusqu'à la proclamation des résultats.
Il faut être attentif à tout, ne pas se précipiter pour donner les résultats dès la fin des calculs, attendre pour revoir tout à peu près. De toute façon, tant qu'on n'aura pas proclamé, on ne dormira pas, c'est sûr.
C'est la première fois qu'il est désigné président de jury, mais Momodou Sané semble serein. Il sent la pression au moment de répertorier les notes des candidats.
C'est surtout là où il faut faire preuve de concentration. Parce que si vous donnez à quelqu'un un 1 alors qu'il a 10 et que celui qui a 10 vous lui donnez 1, vous voyez que ça a une très grande incidence. Surtout si ça tombe sur une matière comme les mathématiques où le coefficient est 4, vous voyez que ça peut amener de très grandes conséquences, quoi. C'est ça un peu la pression qu'on gère ici.
Assis devant la salle des professeurs, les correcteurs très concentrés évaluent les candidats. Ils vivent aussi la pression. Ils vivent aussi la pression selon Aminata, professeur d'histoire et de géographie.
La pression est très forte de part et d'autre, hein, que de rester sur place pendant 4-5 heures pour corriger plus de 80 copies. Là, vraiment, on trouve que c'est trop difficile. Parfois, à un moment, vraiment, le correcteur est fatigué.
La pression des examens se sent partout, surtout chez les candidats qui ont hâte de connaître connaître leur sort.
SOS Casamance veut coûte que coûte le retour de la paix dans le sud du pays. L'organisation demande à tous les citoyens sénégalais du monde épris de paix de signer sa pétition pour que la paix revienne en Casamance. J.N. Chor, Abdoulaye Sombe.
SOS Casamance invite les citoyens du Sénégal et du monde épris de paix et de justice, amis de la Casamance, à signer cette pétition pour exprimer son soutien et sa solidarité aux Casamassais et porter ainsi son choix sur la paix en Casamance. En 28 ans d'existence, soutien SOS Casamance, le conflit casamassais apparaît comme le plus vieux des conflits sur le continent africain. Un conflit qui a coûté aux contribuables sénégalais 2500 milliards de francs CFA selon les experts. La destination Casamance étant déconseillée aux touristes et aux étrangers, l'économie de la région est en conséquence sous perfusion depuis 28 ans. SOS Casamance de se demander combien de familles endeuillées, exilées ou éclatées, combien de victimes de mines, d'enfants abandonnés, des villages rayés de la carte nationale, d'écoles et de postes de santé fermés. Hélas, la Casamance se vide de ses braves fils et filles. La Casamance a mal. Elle meurt sous nos regards impuissants. Il est temps de dire non à cette situation de ni paix ni guerre que connaît la Casamance et d'exiger le retour définitif de la paix. Pour cela, SOS Casamance exige une consultation nationale sur la situation en Casamance avec une implication de ses fils et ses filles, des acteurs du processus de paix, des partenaires au développement pour une paix définitive. Abdoulaye Sambou Ziguinchor, RFM.
En plus bref, menace des autorités contre la presse, la question est au cœur d'une rencontre qui se déroule depuis ce matin. Elle a été initiée par le SEMPIX, syndicat des journalistes, et le CEDEPS, qui regroupe les patrons de presse. Les journalistes vont définir la conduite à tenir au sortir de cette réunion.
RFM. L'actualité internationale.
Bonjour Makouma Mbodji.
Bonjour Antoine.
Guinée-Conakry, des arrestations notées parmi lesquelles des proches de Seloud Alain Diallo.
En particulier son beau-fils qui s'appelle Merdi selon Radio France Internationale. La situation dans le pays, ce sont des arrestations donc opérées et toutes ces arrestations l'ont été après l'attaque de la résidence du président Alpha Condé. Nyuma Bafé le pont.
37 arrestations ont été notées parmi les militaires guinéens depuis l'attaque du mardi dernier contre le domicile du président Alpha Condé à Conakry selon RFI Afrique. Le gouvernement entend sensibiliser population et militaires au souci d'éviter tout dérapage. Les soldats ciblés sont essentiellement des proches de l'ex-président du régime de transition, le général Sékouba Konaté. L'entourage du général dément toute implication et s'interroge sur les motivations de ces militaires. Parmi les arrêtés figurent le commandant Sidiki Camara et Nourou Thiam, ancien chef d'état-major des armées, limogé par le président Alpha Condé dans la foulée de sa prise de fonction.
Également, parmi les arrêtés, on le rappelle, d'une dizaine de proches de Seloud Alain Diallo, parmi lesquels son beau-fils selon Radio France Internationale. L'ex-président sénégalais et actuel secrétaire général de la francophonie a dénoncé l'attaque contre la résidence du président Alpha Condé. Abdou Diouf invite également à tenir des élections législatives libres, fiables et transparentes. La francophonie, selon lui, s'est disposée à accompagner le processus en Guinée-Conakry. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Dramane Ouattara a créé une commission d'enquête sur les violences post-électorales. Cette commission dispose de 6 mois pour transmettre ses conclusions et ses recommandations. On signale qu'entre le 28 novembre 2010 et avril 2011, 3000 personnes sont mortes en Côte d'Ivoire dans des violences entre pro-Ouattara et pro-Bagbo. En Mauritanie, c'est la Banque mondiale qui a accordé un prêt de plus de 6 millions de dollars et une somme destinée au développement du secteur minier, un secteur qui suscite un véritable intérêt auprès de nombreux investisseurs depuis quelque temps en Mauritanie. Antoine.
Makouma Mbodji, la famine en Somalie, parlons-en. Le directeur général de la FAO, Jacques Diouf, décrit la situation.
La FAO qui a décrété l'état de famine en Somalie, le déficit de pluviométrie a eu une influence sur les récoltes et par conséquent sur l'accès à l'alimentation. Que nous écoutons face à la presse.
12 millions de personnes sont touchées, dont 3,7 millions dans la zone de Somalie, donc en Somalie. Et malheureusement, nous avons dû, pendant ce week-end, déclarer l'état de famine en Somalie. Cet état de famine est basé sur trois critères. l'accès à l'alimentation, le niveau de malnutrition lorsqu'il dépasse 30% et le niveau mortalité, le taux de mortalité brute lorsque cela dépasse 2 pour 10 000. Et malheureusement, nous avons atteint ce seuil en Somalie.
La situation en Égypte maintenant, c'est le Haut Conseil militaire qui a décidé de reporter les élections législatives au-delà du mois de septembre prochain. Le vice-ministre de la Défense l'a annoncé. Il ajoute également qu'il ne sera pas accepté de mission d'observation internationale et que la propagande religieuse ne sera pas autorisée. Libye, le ministre des Affaires étrangères Abdelati Oubeidi a annoncé que le départ de Muammar Kadhafi ne figure pas au nombre des propositions de règlement de la crise présentées par l'Union africaine. On note aussi que les États-Unis et la France semblent tendre une perche à Kadhafi. Ces deux pays ne seraient pas contre le fait que Kadhafi reste en Libye s'il devait quitter le pouvoir. En Syrie, l'armée et les forces de sécurité poursuivent leurs opérations sécuritaires dans la ville de Homs. De nombreuses arrestations ont été notées aujourd'hui. Homs est située à 160 km au nord de la capitale et l'une des villes qui mène la révolte en Syrie depuis le 15 mars dernier.
Et nous allons terminer avec Israël-Palestine. L'existence de deux États est la seule garantie d'une paix, selon l'ambassadeur d'Israël à Dakar.
Gideon Béa, qui était face à la presse, et que nous écoutons.
45 ans qui ont passé depuis 67, la réalité a été beaucoup changée. On ne peut pas juste revenir aux mêmes frontières. Alors s'il y a une déclaration d'État palestinien qui dit « voilà, ça c'est la frontière », ça va déjà régler de façon définitive cette question sans donner les chances de pourparler, malgré le fait que la réalité a beaucoup changé sur le terrain. Le peuple d'Israël est très fatigué de cette situation. Nous sommes prêts à faire des grandes concessions. Chaque premier ministre en Israël, depuis Yitzhak Rabin, depuis les accords d'Oslo, a reconnu le droit des Palestiniens d'avoir leur État, a reconnu le droit de deux États, un État israélien et un État juif, qui doivent vivre côté à côté en paix. Alors c'est ça que nous souhaitons.
Précise avant de terminer, Antoine, que l'ambassadeur d'Israël au Sénégal, que vous venez d'entendre, Gideon Béhar, a fait ses adieux. Il quitte définitivement le Sénégal le 28 juillet prochain. Et c'est tout pour l'actualité.
Après 5 ans donc de présence dans notre pays.
C'est cela même.
Merci, ma
parole aux auditeurs.
L'actualité, comment pensez-vous?
Moi, je pense que vous devez.
Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité.
Bonjour.
Oui, bienvenue sur cette antenne d'RFM.
Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM.
Vous avez la parole sur l'interdiction de manifestations à caractère politique devant certaines institutions et édifices publics. Une décision du ministère de l'Intérieur appelée aux numéros habituels.
RFM Sport.
Bonjour, cher Tigane Diagne.
Bonjour, Antoine Diouf.
En ouverture de cette page des sports de la lutte, Tafatine Elton, J-2, chacun promet la victoire. Promet la victoire, donc. Il s'agit bien sûr de lutte. Hein.
Tout à fait, Antoine, vous l'avez bien dit. Et puis, au niveau de ces différentes écuries, on s'active donc en vue de ces confrontations chez le géant du Baol Mbolo. Rien n'est négligé pour lui permettre de dompter son adversaire. Nous écoutons Omar Diagne, il est le directeur technique de Baol Mbolo.
On a préparé le combat sereinement quand même en vue d'aller dans une compétition bien positive. Donc on a préparé le poulain à ce que, qu'il soit participé, une certaine participation au niveau de la conquête et avoir une certaine suprématie vis-à-vis de son adversaire. Donc la préparation, et on l'a basée sur une bonne préparation physique, technico-tactique, donc avoir un bon raisonnement technique, surtout intellectuel, parce que c'est un combat qui a quand même duré presque un an de pour parler. Donc Tafa était obligé de prendre ce combat pour montrer quand même qu'il est dans une bonne phase de progression.
Omar Diagne, le directeur technique de Baol Mbolo, à sa suite Balagay 1 lui promet la victoire de son poulain Elton. Il avance des arguments physiques et le sérieux de l'adversaire de Tafatine. Balagay 1, manager de l'école de lutte Balagay, que nous écoutons également.
Elton.
Vous savez, Elton a toutes les qualités pour faire un bon lutteur. Et nous le préparons à la victoire comme d'habitude. Il a la force. Ensuite, il respecte les consignes qu'on lui donne. En plus, Elton a beaucoup de supporters ici de plusieurs localités du pays. C'est pour cela qu'il se bat. Son combat ne dure jamais. Sa prise est aussi fatale pour ses adversaires. Tafatine est averti. Ce combat Elton Tafatine de samedi est à l'initiative de Luc Nicolai.
Basketball, le stadium Marie-Caille se fait beau pour accueillir la finale du championnat.
Des retouches sont aussi opérées sur le terraflex du temple du basketball sénégalais. Il y a également donc un tableau magnétique qui va être installé. Ce sont là des propos du président de la Fédération sénégalaise de basketball, Baba Tandjian.
Vous constatez avec moi que Marie Ndiaye a changé un peu de visage par la grâce de mes sponsors. Et puis quelques retouches parce que fallait faire un peu beau. Un peu joli, donc le stade est décoré. On a aussi décoré le parquet. Ça ressemble un peu plus à un terrain de NBA. C'est vrai que c'est agréable à regarder. Et les acteurs qui évoluent là-dessus, c'est agréable à évoluer sur un terrain qui est coloré qu'un terrain qui ne l'est pas.
Il y a également que vous annoncez, disons, l'avenue des panneaux. Qu'en est-il exactement là-dessus?
Les chronos sont là. Les chronos sont arrivés dimanche soir par fret aérien. Donc, nous les avons sortis aujourd'hui. Donc, à 16h, nous avons prévu une rencontre avec la presse, justement, pour voir ces panneaux qui vont être montés. Donc, les anciens vont être démantelés, gardés. Et les nouveaux vont être montés. Et je demande aussi au public, vraiment pour la finale de dimanche et lundi, je demande au public vraiment de venir pour découvrir les nouveaux panneaux.
Baba Tandjian, président de la Fédération sénégalaise de basketball, un point de presse est prévu cet après-midi à Maurice Ndiaye. Demain vendredi, les Lions du basketball, champion en titre d'Afrique, vont recevoir des mains du chef de l'État les clés de leurs appartements.
Allons boucler avec du football.
Les équipes du Casasport et de l'Union sportive de Wakam seront fixées sur leur sort cet après-midi à 16h30, donc à l'issue de la réunion de la commission de discipline de la Fédération sénégalaise de football. Une information livrée à l'instant par la cellule de communication de la dite structure. Hier, pour rappel, au stade d'Embodiop de Dakar, la seconde demi-finale de la Coupe du Sénégal n'a pu se terminer du fait de violences provoquées par les supporters des deux camps, ceux du Casasport, des Iguinchors et de l'Union.